Vous connaissez. Il n'est si bonne compagnie qui ne se quitte. Ça va s'afficher. Toujours une petite inertie, voilà. Après avoir passé une année en compagnie de Moïse, nous arrivons ce matin à la fin de cette série qui, je l'espère, ne vous aura pas trop lassé avec ses 24 volets aujourd'hui. Alors, comment terminer cette série? Eh bien, premièrement et tout naturellement avec le récit de la mort de Moïse. Nous arrivons au bout de son chemin et nous allons considérer donc le récit de sa mort. Sa mort qui, comme sa vie, est hors norme, unique, comme à nul autre pareil. Et je vous invite à lire le récit de cet épisode de sa vie, le dernier sur cette terre, qui se trouve à la fin du livre du Deutéronome, au chapitre 34, et je vais lire les versets 1 à 8. Deutéronome 34, versets 1 à 8. Moïse monta des plaines arides de Moab au mont Nebo, au sommet du Pisga, en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, le Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le Négev, le district, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'à Tsoar. Le Seigneur lui dit, « C'est là le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta descendance. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur l'ordre du Seigneur. Il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, en face de Beth-Péor. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Moïse avait 120 ans lorsqu'il mourut, son œil ne s'était pas affaibli et sa vigueur n'avait pas disparu. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines arides de Moab. Puis ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Moïse a 120 ans quand Dieu l'appelle à monter sur le mont Nebo pour y mourir. Le peuple campe en bas, dans la vallée, en face de Jéricho, dans les plaines de Moab. Il est aux portes du pays promis. Et la prochaine étape pour le peuple sera de traverser le Jourdain pour entrer en possession de la terre promise. Mais c'est Josué, et non pas Moïse, qui conduira le peuple dans cette nouvelle étape. Moïse n'entrera pas en Canaan, nous avons vu cela il y a quelques dimanches, à cause de sa désobéissance. La mission que Dieu lui a confiée est maintenant achevée et il est temps pour lui de monter plus haut. Ceci dit, avant de mourir, Dieu fait voir à Moïse tout le pays promis. De droite à gauche, du nord-est jusqu'au sud-est, de Galaad jusqu'à Dan. Moïse n'entrera pas en Canaan, mais Dieu confirme à ce moment-là sa promesse en lui montrant le pays qu'il donne à sa descendance. Après ces précisions, le texte nous parle de la mort de Moïse à proprement parler. Et il y a trois détails à ce sujet que j'aimerais souligner. Premièrement, il est dit au verset 5 que Moïse mourut sur l'ordre du Seigneur. C'est réconfortant de savoir que notre vie est dans les mains de Dieu, et c'est aussi réconfortant de savoir que notre mort aussi est dans les mains de Dieu. C'est lui qui fixe le nombre de nos années. C'est lui qui en fixe le commencement et la fin. C'est lui qui tient notre vie dans sa main. Moïse, serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, sur l'ordre du Seigneur. Le deuxième détail souligné au verset 6 concerne le fait que Dieu lui-même enterre Moïse. C'est pas commun quand même. Il, c'est-à-dire le Seigneur, l'ensevelit dans la vallée au pays de Moab en face de Beth-Péor. Et Moïse est certainement le seul être humain, j'ai pas pensé à d'autres, en tout cas dans l'Écriture, à avoir eu cet honneur, à avoir été enterré par Dieu lui-même. Alors cette précision serait presque anecdotique s'il n'y avait pas le troisième détail. Le troisième détail sur lequel je voulais m'arrêter, toujours au verset 6, où il est dit que personne ne sait où est la tombe de Moïse. Il l'ensevelit dans la vallée, au pays de Moab, etc. Personne ne sait où est sa tombe jusqu'à ce jour. Dieu a veillé à ce que l'emplacement de la sépulture de Moïse reste secret, inconnu. Imaginez un instant, le lieu de pèlerinage et de dévotion abusive, d'idolâtrie, que serait devenu au fil des siècles la tombe de Moïse si son emplacement était connu. Il y a suffisamment de lieux de pèlerinage tout autour de nous et sur cette terre, de lieux de conservation, de reliques en tout genre, pour nous donner une idée de ce que ça pourrait donner, mais peut-être sous une forme XXL. Parce que la différence pour la tombe de Moïse, c'est qu'il est considéré par beaucoup de gens sur cette terre comme le fondateur des trois religions monothéistes. Abraham en étant le père de la foi. Alors imaginez un instant un tel lieu de pèlerinage et tous les conflits incessants que cela aurait engendré. Dieu, dans sa grâce, ne l'a pas permis. Et c'est peut-être là l'enjeu de ce qui s'est joué après la mort de Moïse entre le diable et l'archange Michel. Je ne sais pas si vous avez ce passage, mais sans doute, vous êtes comme moi, vous n'allez pas lire tous les jours le petit livre de Jude. Mais dans ce petit livre de Jude, il nous est dit que le diable a contesté le corps de Moïse. Je lis le verset 9. Or, lorsqu'il contestait avec le diable et discutait au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te rabroue. Bien sûr, le texte ne précise pas la raison de cette contestation entre le diable et l'archange Michel. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses. Mais ce que nous savons, c'est que les lieux de dévotion en tout genre, les lieux de pèlerinage de toutes les religions, attirent et gardent les gens loin de Dieu, dans la superstition et dans l'ignorance du vrai salut qui se trouve en Jésus et en Jésus seul. Dieu, dans sa grâce, a donc enterré lui-même Moïse et gardé l'emplacement de sa tombe secret. Les Israélites vont pleurer Moïse pendant 30 jours, un mois entier de deuil. On peut presque être surpris après toutes les contestations que le peuple a eues avec Moïse pendant les 40 ans dans le désert, mais 30 jours de deuil qui soulignent néanmoins l'importance que Moïse avait aux yeux du peuple. Et comme le dit le point suivant dans notre plan, Moïse était un prophète à nul autre pareil. Moïse, un prophète à nul autre pareil. Je lis la suite de notre passage dans Deutéronome 34, les versets 9 à 12. Josué, fils de Noun, était rempli d'un souffle de sagesse, car Moïse avait posé les mains sur lui. Les Israélites l'écoutèrent, ils firent ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Pour tous les signes et les prodiges que le Seigneur l'envoya produire en Égypte, contre le Pharaon, contre les gens de sa cour et contre tout son pays, et pour toutes les choses grandes et redoutables que Moïse fit d'une main forte sous les yeux de tout Israël. Verset 10, il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse, que le Seigneur connaissait face à face. Moïse est bien un prophète à nul autre pareil. C'est parce que, souvenez-vous, c'était au tout début de la série, c'est parce que le peuple ne supportait pas que Dieu leur parle directement au mont Sinaï qu'est finalement né le ministère prophétique au sein du peuple d'Israël. Le prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Le prophète, c'est celui qui va parler au peuple de la part de Dieu, puisque le peuple ne voulait pas que Dieu leur parle directement. C'est donc un médiateur entre Dieu et le peuple. Et dans ce registre, nous pouvons dire que Moïse est vraiment dans une case à part. Il ne s'est plus levé en Israël de prophète comme Moïse. Et le texte donne deux raisons pour étayer cette affirmation. Premièrement, Moïse est dans cette case à part parce que le Seigneur le connaissait face à face. Je ne reviens pas là-dessus, nous l'avons vu dans la série. Dieu parlait à Moïse dans l'attente de la rencontre face à face, comme un homme parle à son ami, dit le texte. Une expression qui dit une grande intimité qui nous dépasse, dont nous avons vraiment, dont j'ai en tout cas du mal à appréhender le degré. La deuxième raison donnée par le texte se trouve au verset 11 et 12, et ce sont tous les signes et les prodiges que Dieu a donné à Moïse de pouvoir faire, de faire en son nom, pour libérer le peuple de la main de Pharaon, et aussi toutes les choses grandes et redoutables que Moïse a fait d'une main forte, sous les yeux du peuple. Et nous pouvons dire qu'à part Jésus, aucun homme n'a été un instrument dans la main de Dieu pour autant de prodiges et de miracles extraordinaires. Le ministère de Moïse est jalonné de choses incroyables, de miracles tous plus incroyables les uns que les autres. Il y a les 10 plaies d'Égypte, l'eau qui sort du rocher en passant par la mer qui s'ouvre, etc. Et à ces prodiges, il faut sans doute ajouter tous les événements capitaux de l'histoire d'Israël qui ont eu lieu sous son ministère, comme l'établissement de l'alliance au Sinaï, le don de la loi au Sinaï et la naissance d'Israël en tant que nation. Oui, le ministère prophétique de Moïse est unique, grandiose, et cela confirme qu'il est bel et bien dans une case à part, qu'il est bel et bien un prophète à nul autre pareil. Pourtant, aussi grand et unique qu'il ait été, Moïse n'est que la préfiguration d'un autre prophète à venir, qu'il va d'ailleurs lui-même annoncer dans ce même livre du Deutéronome. Et nous arrivons à notre troisième point, un prophète comme Moïse. Je lis Deutéronome 18, versets 15 à 18. Deutéronome 18, versets 15 à 18. « Il fera lever parmi tes frères un prophète comme moi, Moïse. C'est lui que vous écouterez. C'est bien ce que tu avais demandé au Seigneur ton Dieu le jour de l'assemblée au mont Horeb. Tu avais dit, je ne peux plus entendre le Seigneur mon Dieu nous parler directement, ni voir ce feu ardent. Je ne veux pas mourir. Le Seigneur m'a alors déclaré, très bien, parmi leurs frères, je vais faire lever un prophète comme toi. Je lui communiquerai mes messages et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Verset 15, un autre prophète comme Moïse, un autre Moïse, que le peuple a attendu et espéré pendant des siècles, et qu'il attendait et espérait encore à l'époque de Jésus. Et c'est pour ça que nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 19 à 20, ceci. « Voici le témoignage rendu par Jean, il s'agit de Jean-Baptiste, lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour l'interroger. « Qui es-tu ? » Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous, « Je ne suis pas le Christ. » Ils lui demandèrent, « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?»« Non, répondit Jean, je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » dirent-ils. « Non, répondit-il. » La foule demande ici à Jean-Baptiste s'il est le prophète, en référence à cette annonce d'un autre prophète comme Moïse que le peuple attendait. Sa réponse, bien sûr, est négative. Jean-Baptiste n'en est que le précurseur. Cet autre Moïse, cet autre prophète comme Moïse, c'est bien sûr Jésus. Et rapidement, au début de son ministère, la foule va le reconnaître. Nous restons dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 14. Les gens, voyant le signe que Jésus avait accompli, dirent, « C'est vraiment lui, le prophète, qui devait venir dans le monde. » On peut remarquer ici, et ce n'est bien évidemment pas un hasard, que cette affirmation de la foule suit le miracle de la première multiplication des pains. Tout un symbole. Le premier Moïse a donné la manne au désert pour nourrir le peuple. Jésus, le nouveau Moïse, multiplie les pains et les poissons pour nourrir la foule. Et il n'est donc pas étonnant que la foule et fait le rapprochement à ce moment-là, après ce miracle. C'est vraiment lui, le prophète, qui devait venir dans le monde. Si la foule a reconnu en Jésus le prophète annoncé par Moïse, bien évidemment les apôtres aussi. Et un des exemples les plus évidents est sans doute celui du discours de Pierre dans le livre des Actes au chapitre 3, et je lis les versets 17 à 26. Cependant, frères et sœurs, je sais bien que vous et vos dirigeants avez agi par ignorance, mais Dieu a accompli ainsi ce qu'il avait annoncé autrefois par tous les prophètes. Son Christ devait souffrir. Changez donc de vie et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur fera venir des temps de repos et il vous enverra Jésus, le Christ, qu'il avait choisi d'avance pour vous. Pour le moment, il doit rester au ciel jusqu'à ce que vienne le temps où tout sera renouvelé, comme Dieu l'a annoncé par ses prophètes depuis longtemps déjà. Moïse a dit en effet, « Le Seigneur votre Dieu fera lever pour vous un prophète comme moi, qui sera l'un d'entre vous. Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Toute personne qui n'écoutera pas ce prophète sera exclue du peuple de Dieu et exterminée. Et les prophètes qui ont parlé depuis Samuel ont tous, les uns après les autres, également annoncé ces jours-ci. La promesse que Dieu a faite par les prophètes est pour vous, et vous avez part à l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres. Quand il a dit à Abraham, « Je bénirai toutes les familles de la terre à travers tes descendants. » C'est pour vous d'abord que Dieu a fait lever son serviteur. Il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun d'entre vous de ses mauvaises actions. » Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte qui n'est pas très facile à appréhender, mais on comprend assez rapidement quand même qu'il s'agit de Jésus, bien sûr, dans le contexte, et qu'il est celui qui accomplit cette parole de Moïse au chapitre 18 du livre du Deutéronome. Jésus est le prophète annoncé par Moïse, et il est celui que le peuple doit maintenant écouter, dit Pierre. Et il le dit en faisant référence à ce que Moïse lui-même avait dit dans le Deutéronome. Verset 22, Moïse a dit en effet, « Le Seigneur votre Dieu fera lever pour vous un prophète comme moi, qui sera l'un d'entre vous, vous écouterez tout ce qu'il vous dira. » Vous écouterez tout ce qu'il vous dira. Premièrement, c'est lui que le peuple doit maintenant écouter, car Jésus, s'il est comme Moïse, est en réalité bien plus grand que Moïse parce qu'il est le Fils. Parce qu'il est le Fils. Moïse était un prophète. Jésus aussi. Mais Jésus est surtout le Fils de Dieu. Et vous savez que dans la pensée juive, le Fils est celui qui est de la même essence que le Père. Ainsi, le Fils de Dieu signifie qu'il est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand Moïse parlait, que disait Moïse ? Il disait « Ainsi parle le Seigneur ». Mais que disait Jésus quand il parlait ? Il ne disait pas « Ainsi parle le Seigneur ». Il disait « en vérité, je vous le dis. Je vous le dis. » Jésus parlait de sa propre autorité, de l'autorité de Dieu parce qu'il est le Fils. Parce qu'il est Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va d'ailleurs le souligner dans ces versets que je vais lire au chapitre 3, versets 1 à 6. Un autre texte un petit peu compliqué, mais on comprend l'essentiel rapidement. « Aussi, frères saints qui avaient part à un appel céleste, considérez Jésus, celui que nous reconnaissons publiquement comme apôtre et grand prêtre. Il a été digne de la confiance de celui qui l'a nommé, comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En fait, il a été jugé digne d'une gloire plus grande que celle de Moïse, dans la mesure où celui qui bâtit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Toute maison, en effet, est bâtie par quelqu'un. Or, celui qui a tout bâti, c'est Dieu. Pour ce qui est de Moïse, il a été digne de confiance dans toute sa maison comme serviteur pour rendre témoignage à ce qui allait être dit. Mais le Christ l'est comme fils. Mais le Christ l'est comme fils sur sa maison. Or, sa maison, c'est nous, si nous conservons l'assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. La supériorité de Jésus sur Moïse est ici clairement énoncée parce qu'il est le Fils. Et non pas seulement un serviteur comme l'était Moïse. Deuxièmement, c'est lui que le peuple doit maintenant écouter, parce que Jésus, s'il est comme Moïse, est bien plus grand que Moïse, parce que sa parole est finale. Sa parole est finale. Moïse a parlé de la part de Dieu, mais sa parole a été complétée par celle de tous les autres prophètes qui sont venus après lui. Jésus aussi a parlé de la part de Dieu, mais sa parole est définitive. Elle clôt la révélation biblique. Avec Jésus, tout est dit pour le salut, parce que la parole du Fils est la parole des derniers jours, comme le souligne l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en commençant d'ailleurs son épître. Je lis les versets 1 et 2. « Après avoir autrefois, à bien des reprises et de bien des manières, parlé au Père par les prophètes, » ça c'était autrefois, « Dieu nous a parlé en ces jours qui sont les derniers, par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. » En ces jours qui sont les derniers. Les derniers jours, bibliquement parlant, c'est la période qui a commencé avec la venue de Jésus et qui se terminera avec son retour. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, les derniers jours, c'est cela. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans les derniers jours, dans les derniers temps. Nous attendons le retour du Seigneur. La prophétie de Joël concernant la venue du Saint-Esprit qui s'est réalisée à la Pentecôte, dit ceci: dans les derniers jours, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Avec la venue de Jésus, l'humanité est entrée dans la dernière phase de son histoire. Nous vivons les derniers jours du point de vue biblique, qui peuvent peut-être encore durer quelques siècles, ou quelques jours, ou quelques semaines, ça on ne sait pas, mais ce sont les derniers jours, bibliquement parlant. Et dans ces derniers jours, dit ce texte de l'Épître aux Hébreux, Dieu a nouveau parlé. Il y a eu un long silence de 400 ans après Malachie. Dieu n'a plus parlé. Et dans le Nouveau Testament, Dieu parle à nouveau. Et il parle à nouveau et d'une seule manière, par le Fils. Et cette révélation est la révélation finale, complète de Dieu. C'est d'une certaine manière la dernière pièce du puzzle. Jésus est l'accomplissement de tout ce que Dieu avait dit jusque-là. Et avec Jésus, Dieu met un point final à sa révélation. Il n'y a plus rien à ajouter. Tout a été dit. Nous n'avons plus besoin de nouvelles directives pour savoir comment être sauvés. Nous n'avons plus besoin de nouveaux prophètes pour nous dire quoi faire. Tout a été dit, Jésus nous a fait connaître le Père et son amour, et il a dit que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Jésus nous a montré le chemin qui mène au Père, c'est-à-dire lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jésus est la communication complète et parfaite de Dieu aux hommes. Il n'y a plus rien à ajouter. Il est effectivement bien plus grand que Moïse parce que sa parole est finale. Et puis, troisièmement, c'est lui que le peuple doit maintenant écouter, car Jésus, s'il est comme Moïse, est plus grand que Moïse, parce que par Jésus, tout est accompli pour le salut. Les prophètes dont Moïse était se sont contentés d'annoncer. Ils se sont contentés de promettre ce que Dieu promettait. Jésus, lui, a accompli. Comme je l'ai déjà dit, il est l'accomplissement de tout ce que les prophètes ont annoncé. Il est le Messie promis. Il est le Sauveur qui sauve les hommes de leurs péchés. Et ainsi, il n'est plus nécessaire de faire des sacrifices, parce que le sacrifice ultime a été accompli en Jésus sur la croix, une fois pour toutes. Et c'est bien pour cela que Jésus déclarera sur la croix que tout est accompli. Comme le dit l'apôtre Jean au début de son évangile, la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité étaient déjà présentes dans la loi, mais elles sont parfaitement données en Jésus-Christ. Quatrièmement, c'est lui que le peuple doit maintenant écouter parce que Jésus, s'il est comme Moïse, est bien plus grand que Moïse, parce que l'alliance qu'il instaure est supérieure ou meilleure. L'alliance de Moïse, de Dieu par Moïse, l'alliance dite mosaïque, était conditionnelle. Il y avait des conditions à respecter. L'obéissance, l'écoute, l'obéissance, l'engagement, etc. Et c'est pour la raison pour laquelle nous lisons, par exemple, Exode 19, verset 5, « Si vous écoutez, » c'est Dieu qui parle et qui dit, « Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, si et seulement si, vous m'appartiendrez en propre. » Ça, c'est l'alliance mosaïque. En désobéissant, le peuple sortait du cadre de l'alliance. Il rompait l'alliance. Mais avec Jésus, les choses sont différentes. L'alliance qu'il a accomplie avec sa vie, avec son sang, est inconditionnelle. Et c'est la raison pour laquelle déjà le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, disait ceci. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel. » où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Ça ne marchait pas, la loi, sur des tables de pierre. Mais la loi dans le cœur, ça marche mieux. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Vous ne voyez pas le petit mot « si ». Si ils font ceci ou si ils font cela, je mettrai ma loi. Non, je le ferai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » En Jésus, Dieu est notre Dieu sans condition, si nous sommes par la foi en Jésus. En Jésus, nous sommes son peuple sans condition, si nous sommes par la foi en Jésus. C'est une grâce, une pure grâce que Dieu nous fait. L'alliance en Jésus est bien meilleure que celle du mont Sinaï, et cette alliance, et nous le rappelons à chaque fois que nous prenons la scène, a été scellée par le sang de Jésus. Nous le relirons tout à l'heure. Il fit de même avec la coupe après le dîner en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle. » L'alliance dont parlait Jérémie, l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Je termine avec un cinquième et dernier point. C'est lui que le peuple doit maintenant écouter, parce que Jésus, s'il est comme Moïse, est bien plus grand que Moïse, parce que l'exode qu'il nous propose ou dans lequel il nous conduit va beaucoup plus loin et nous amène jusque dans la vie éternelle. Moïse s'est contenté de conduire le peuple aux portes de Canaan. Josué l'a emmené à la conquête. Moïse a été l'instrument de Dieu pour libérer les Hébreux de l'esclavage de Pharaon et pour les conduire jusqu'à la terre promise. Jésus, lui, est l'instrument de Dieu pour libérer tous ceux qui viennent à lui par la foi de la condamnation de leurs péchés, pour les libérer du joug du diable, pour les conduire dans la vie éternelle, dans la présence de Dieu pour toujours. Toutes ces raisons, et on pourrait très certainement en décliner d'autres encore, font en réalité que Jésus n'est pas juste un autre Moïse, n'est pas juste comme Moïse, mais il est le nouveau Moïse dont le ministère est bien plus grand est bien plus important que le premier. Ainsi, Jésus, le nouveau Moïse, nous libère de tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Il nous libère de l'esclavage de notre péché. Il nous libère de la condamnation que nous méritons à cause de notre péché. Il nous libère du salaire du péché qui est la mort. Il nous libère de la domination du diable sur nos vies. Et tout cela, c'est une autre façon de dire ce que l'on dit simplement quand on parle du salut. Ainsi libéré ou sauvé, Jésus, le nouveau Moïse, nous conduit alors dans la vie éternelle. C'est la vie chrétienne avec ses difficultés, qui est le voyage en lui-même, comme la vie du peuple dans le désert. Et dans cette vie, Jésus, comme Moïse conduisait le peuple, Jésus nous conduit et nous nourrit par sa parole, comme un berger guide son troupeau en le nourrissant. Et il le fait et il le fera jusqu'au jour où nous aussi, nous serons appelés à monter plus haut, comme Moïse dans notre texte. Chers amis, ainsi se termine la série sur Moïse, un homme au ministère incroyable, on l'a vu pendant une année, mais qui n'était en réalité que l'ombre du grand Moïse qui devait venir et qui est venu en Jésus pour nous offrir bien plus qu'une possession terrestre d'un bout de terre, pour nous offrir le salut et la réconciliation avec Dieu, son Père. C'est lui qu'il faut écouter maintenant, dit le texte. Il est le seul qui peut nous sauver. Il est le seul qui peut nous conduire jusqu'au Père. Il est le seul qui peut nous libérer, comme ça nous a été dit ce matin, de tous nos esclavages, de toutes nos chaînes, et nous conduire dans la vie éternelle. Parce que comme nous le lisons dans le livre des Actes, au chapitre 4, verset 12, le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, il est bien évidemment question de Jésus dans le texte, donné parmi les humains par lequel nous devions être sauvés. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.